saigne au-delà de ses lignes. Je sais où palper mes véritables origines. Là où poussent mes racines, où poussent mes racines. Le poing serré en signe, poing serré en signe. D'un cœur qui saigne au-delà de ses lignes. Je sais où palper mes véritables origines. Là où poussent mes racines. E-K-O-U-E. Original togolais. Chasseur de primes comme les éperviers. Yeah.
La rumeur avec ce solo d'Ekoué, là où poussent mes racines, extrait du tout dernier album. Et ben ça va être l'heure pour moi de vous dire bye bye. On va se quitter avec Lilia Narrative dans quelques minutes. Et bien juste après, vous retrouvez demain le grand soir avec rediffusion de cette émission qui avait fait la part belle à l'épopée Sacco et Vanzetti. Hey, je vous retrouve tout à l'heure. Ciao.
socialiste, compagnon radical, ultra révolutionnaire, anarchiste, etc., etc. Aussi je vais dans tous les métingues, jamais je ne rate une réunion. Et je passe mon temps chez les manzingues, où se compresse la révolution.
Donc vous l'aurez compris, c'est demain le grand soir, et aujourd'hui on avait l'intention de commémorer les 80 ans de la mort de Sacco et Vanzetti.
Oui,
donc on va attaquer dans le dur.
Voilà, donc c'est le 23 août 1927 que Sacco et Vanzetti ont été exécutés par l'injustice américaine. Et donc on avait décidé de faire cette émission spéciale en essayant de faire aborder largement les thématiques maintenant, parce qu'on n'avait pas le temps de la faire avant, tout simplement. Mais on se disait qu'il fallait absolument marquer le coup de cet assassinat par la justice de classe américaine. Donc on va vous parler à la fois du contexte social, de l'affaire judiciaire en elle-même, et de Sacco et Vanzetti, et du mouvement international qui s'est passé en défense de ces deux militants pendant des mois et des mois. Donc le contexte social des États-Unis de l'époque, les États-Unis sont rentrés en guerre, à la Première Guerre mondiale en 1917. Donc suite à cette rentrée en guerre en 1917 des États-Unis, il y a des groupes qui sont agités donc pour demander aux travailleurs de ne pas justement faire cette guerre, et donc avec une propagande antimilitariste conséquente menée principalement par les anarchistes, et qui va se grouper autour de soit de groupes anarchistes, soit des IWW. Alors les IWW, c'est un syndicat, les Industrial Workers of the World, qui est un syndicat donc révolutionnaire qui est né à Chicago le 27 juin 1905. Et qui a pour but de donner aux salariés, aux travailleurs, les pouvoirs économiques, les moyens de production, l'ensemble de la production et de la distribution s'opposant au capital. Et le moyen d'émancipation de la classe ouvrière est pour eux la grève générale. Donc c'est le pendant finalement de la CGT anarcho-syndicaliste en France et d'autres syndicats révolutionnaires à cette époque. Et il y a aussi les Woublies qui sont assez célèbres. Donc c'était ces militants, ces agitateurs qui passaient d'une ville à une ville et d'une lutte à une lutte, en empruntant d'ailleurs les chemins de fer, hein, en truandant les chemins de fer, en montant dans les trains, dans les wagons en marche. Et donc c'est toute une imagerie de la contestation américaine, et ça va donner aussi, entre autres, hein, année après année, toute la tradition du folk contestataire américain. Donc on a des grands noms, hein, aux États-Unis comme Woody Guthrie par exemple, qui procèdent de cette tradition donc anarchisante, disons. Et à la fin de la guerre, donc les États-Unis vont essayer de faire le ménage, parce que ces agitateurs les ont beaucoup ennuyés. Ils vont s'arranger pour écraser les IWW par des méthodes évidemment terriblement autoritaires et des assassinats. Et puis ils vont renvoyer en masse des immigrés, notamment Emma Goldman, qui était une des figures de l'anarchisme international. Elle va être renvoyée en URSS, elle et son mari Bergman. Et 1919 a été une année de violence terrible aux États-Unis suite à cette violence sociale de l'État américain. Deux jours avant le retour du président Wilson, le président des États-Unis, qui revient de la conférence de la paix à Paris, deux membres du cercle anarchiste espagnol Grupo de Planza sont arrêtés à Philadelphie parce qu'ils sont accusés d'avoir voulu attenter à la vie du président. Et en représailles de cette arrestation, le maire de Seattle, qui combattait le danger rouge, disent-ils, reçoit une bombe dans un paquet postal. Donc le lendemain de cette affaire, Thomas Harwin, qui est l'ex-président de la commission de l'immigration, reçoit le même cadeau, et on compte pas moins de 37 paquets contenant des bombes destinées à diverses personnalités américaines, dont Olivier Wendell Holmes, qui est le président de la Cour suprême des États-Unis, et l'avocat général Palmer. Le 1er mai 1919 est particulièrement violent. Il y a des batailles de rue, des meetings monstres, il y a des assassinats de manifestants, hein, et donc il y a une sorte de terreur populaire qui naît aux États-Unis. Luigi Galeani, qui est une figure très connue et estimée de l'anarchisme, est arrêté et condamné à la déportation suite à une de ses publications. Suite à cette arrestation, il y a de nouveau des bombes qui éclatent dans 8 grandes villes des États-Unis. Donc le climat de violence est à son apogée, dirais-je. Et donc face à ça, la répression évidemment ne cesse d'avancer, de grandir, et à tel point que par exemple le 2 janvier 1920, il y a pas moins de 6000 mandats d'arrêt qui sont prêts pour les étrangers afin de les déporter. Et on va assister à des scènes assez étonnantes dans les grandes villes américaines où on va voir des défilés entiers de prisonniers enchaînés aller en déportation. Donc la démocratie américaine, dirais-je, en marche, hein, tel qu'ils ont pu la vivre. Donc évidemment, les anarchistes ne peuvent pas rester silencieux inactifs et ils font une propagande importante contre cette répression par voie de tracts, de conférences, de grèves, etc., etc. Et donc, c'est un contexte qui va expliquer ce qui va arriver à Sacco et Vanzetti. Alors, en expliquant aussi que cette dimension, enfin cette affaire, elle va prendre une dimension mondiale, bien plus par exemple que l'affaire Dreyfus en France. Hein. Pourquoi ? Parce que justement l'entrée en guerre des États-Unis a fait que les deux continents se sont rapprochés. Parce qu'il y a les frères d'armes, parce qu'il y a cette histoire en commun. Et il y a une immigration européenne très importante, évidemment, aux États-Unis, notamment d'origine italienne et juive. Et les Italiens sont chassés aussi pour des raisons politiques. Hein. On assiste à la montée du fascisme en Italie. L'immigration juive est très est d'origine prolétarienne et elle a plusieurs quotidiens anarchistes. Il y a plusieurs quotidiens anarchistes à New York qui tirent plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, qui sont des quotidiens ouvriers et qui vont faire, ils vont prendre fait et cause pour les deux malheureux Sacco et Vanzetti. Il va y avoir aussi à Boston une très forte mobilisation, parce que pourquoi Boston ? Parce que tout simplement Boston est une ville d'immigration italienne très importante. Et donc même d'autres forces politiques très modérées comme le Parti socialiste de l'époque, qui va devenir par la suite le Parti démocrate, hein, mais qui est constitué quand même le troisième courant politique du pays et qui recueille plusieurs millions de voix, va s'investir dans le soutien à Sacco Vanzetti. Son Eugène et son leader Eugène Debs rendra visite aux accusés dans leur prison. Donc ces fighters vont expliquer une mobilisation internationale qui va être d'autant plus importante que l'immigration ne se limite pas aux États-Unis, mais elle est aussi très importante en Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, le mouvement libertaire est considérablement efficace et nombreux, notamment en Argentine, où la FORA, qui est le syndicat, le grand syndicat argentin, est anarcho-syndicaliste. Et il se nourrit évidemment de cette immigration, notamment l'immigration italienne. Et donc tout le continent va s'enflammer, mais le monde entier va s'enflammer par rapport à cette affaire. Donc, pour résumer un peu l'affaire qu'on va aborder tout à l'heure d'un point de vue plus judiciaire, hein, les faits, mais on peut dire que l'affaire Sacco et Vanzetti, c'est à la fois un procès d'opinion et un affrontement de classe. Hein, et chacun sait que c'est l'anarchiste qui est en réalité dans le box. C'est pas Sacco et Vanzetti, mais c'est l'anarchiste qu'il faut tuer. Et la personnalité très 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 digne et respectable des accusés, on va en faire des figures emblématiques de la souffrance ouvrière. Donc c'est ces caractéristiques-là qui vont expliquer le retentissement mondial que va avoir l'affaire Sacco et Vanzetti.
Là-dessus, on va se faire une petite pause musicale avant d'enchaîner sur les faits. Alors, je vais vous passer donc Francesco Di Gregori qui nous chante Sacco et Vanzetti, donc.
révolutionnaire, anarchiste, etc., etc. Aussi je vais dans tous les métingues, jamais je ne rate une réunion. Et je passe mon temps chez les manzingues, où je compresse la révolution.
Chère sœur, j'ai reçu ta lettre avec un grand plaisir. Je te remercie de tes bonnes paroles et de me conserver vivant dans le souvenir de nos cadets. Je ne puis te décrire l'émotion qui m'a envahie à lire les bonnes nouvelles de papa, d'Hector et de Senzina. Nous sommes frères et sœurs et on ne change pas le cœur. Sache que l'on peut et que l'on doit tout confier à un frère. Maintenant, je te parlerai un peu de l'Amérique. Le récit de mes aventures serait trop long. Je me limite donc à te donner un bref résumé. Comme vous l'avez compris d'après mes premières lettres, quand j'arrivais en Amérique, une crise effroyable désolait cette contrée. J'eus la chance de travailler tout de suite dans des hôtels et durant 10 mois, je ne connus pas d'infortune. Je travaillais 8 mois dans un restaurant français où j'ai appris un peu la langue. Je partis de New York et je vins à la campagne. Je travaillais la terre, je déboisais les forêts, je travaillais à faire des briques. Je travaillais dans un magasin de fruits, de confiserie, de sucre d'orge. Et dernièrement, j'ai fait des installations téléphoniques. Actuellement, je ne travaille pas à cause du froid. J'ai le ferme espoir de trouver un bon travail, d'autant qu'un ami, un Piémontais, fait l'impossible. À la campagne, j'ai acquis force et santé. Le village où je travaille compte 30 000 âmes. Il a une bibliothèque, une école supérieure et des cours du soir, de nombreux parcs et le petit lac. Il n'y a pas de nationalité que je n'ai rencontrée. J'ai beaucoup souffert de me trouver au sein d'étrangers, indifférents et parfois hostiles. J'ai dû souffrir des injures et des railleries. Ici, la justice publique est fondée sur la force et sur la brutalité, égard à l'étranger et en particulier à l'italien. Le bâton des agents, les prisons et les codes pénaux lui sont destinés. Je ne crois pas que l'Amérique soit courtoise, car bien qu'il ne manque pas de grandes qualités dans la population américaine, une fois ôtée la carapace et l'élégance du vêtement, tu trouves des semi-barbares, des fanatiques et des délinquants. Nul pays au monde n'abrite autant de religions et d'extravagances religieuses que les États-Unis. Ici est applaudi celui qui fait des sous, peu importe s'il vole ou empoisonne. Bien des gens ont fait fortune à vendre leur dignité et à espionner les travaux de leurs propres compatriotes. Beaucoup réduisent la moralité à un niveau plus bas que celui des animaux. Bien que tous les cultes y soient libres, le jésuitisme triomphe et les saintes doctrines d'Europe sont loin d'illuminer ces lieux et ces populations. Je suis toujours bien vue en général, tant des Italiens que des Américains et même des Noirs. Sache qu'il y a une multitude de jeunes Italiens qui ne travaillent jamais. Ils sont toujours dans les divertissements et s'habillent élégamment. Ils appartiennent à la Manonera et vivent du fruit de leurs délits. Je ne fréquente que des personnes honnêtes et intelligentes. Voici 2 ans que je fréquente l'école anglaise et je commence à m'en tirer. Je n'ai confiance qu'en moi, en ma volonté, mon honnêteté et ma fermeté, et dans la santé, si le destin continue à me la conserver. J'espère vaincre. Bartolomeo Vanzetti, le 12 janvier 1911. C'est une petite lettre, évidemment, qu'il envoyait à sa sœur, sur laquelle je me suis permis quelques réductions, puisque Vanzetti faisait des lettres énormes, hein, donc je m'en excuse, mais évidemment, vous pouvez vous-même retrouver toutes ces lettres dans de nombreux ouvrages qui traduisent toutes les lettres de Sacco et Vanzetti.
Bah dans un, notamment Sacco et Vanzetti, lettres 1921-1927, mais sinon, il y aura certains extraits qu'on peut retrouver dans différents ouvrages, effectivement. Alors, là, cette lettre, elle a été écrite donc 3 ans après l'arrivée de Vanzetti aux États-Unis, puisque Vanzetti a quitté l'Italie en 1908. Donc voilà, donc là vous avez bien compris que dans cette lettre, il parle bien des conditions en fait des immigrés aux États-Unis, que c'était assez compliqué, assez mal vu. Et donc là pour ce qui est de l'affaire, je vais vous présenter quand même les faits. Brièvement, donc il s'agit de 2 tentatives de vol à main armée dans le Massachusetts, commises à quelques mois d'intervalle. La première, donc le 24 décembre 1909 à Bridgewater, une attaque manquée d'un convoyeur de fonds. Personne n'est blessé, mais Vanzetti sera inculpé seul pour ce crime. La seconde, le 15 avril 1920 à South Braintree, un hold-up réussi celui-ci. Les bandits tirent dans tous les sens, deux hommes sont abattus. C'est une attaque qui sera à l'origine de l'inculpation de Sacco. Alors, les pistes policières sont diverses et variées et surtout très, 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 très vagues, on va dire, puisque les témoignages sont surtout, eux, assez flous et vagues. Et pour la première attaque, par exemple, un témoin aperçoit un moustachu dans une voiture de gangster, sachant qu'à l'époque, c'était un petit peu la mode, quand même, de porter une grosse moustache. Pour la seconde, on décrit un homme aux cheveux bruns ondulés qui porterait un costume sombre. Donc pareil, c'est pas super précis non plus. Enfin, il y avait pas, on peut pas dire qu'il y avait des portraits robots ou des choses comme ça. Donc voilà, la description de la voiture des gangsters n'est pas plus évidente. Elle est tantôt noire, tantôt verte ou brillante ou tachée de boue, on ne sait pas trop. On déclare que c'est une Hudson, mais finalement on va se contenter d'une Buick parce que c'est la seule voiture que les policiers ont retrouvée à un moment ou un autre dans les bois. Et surtout qu'ils ont fait un amalgame avec une voiture appartenant justement à un anarchiste italien qui avait l'habitude de militer un petit peu à droite à gauche et qui aussi connaissait Sacco. Donc voilà. Alors le chef de la police de Bridgewater était davantage occupé par la traque des immigrés opposants politiques que par les deux hold-up en fait. Et c'est comme ça que le 16 avril 1920, Ferruccio Coacci, un art frappé d'expulsion par les mesures gouvernementales répressives, est signalé à la police comme ne s'étant pas rendu au bureau de l'immigration. Coacci avait fait savoir qu'il était dans la possibilité de le faire, devant rester au chevet de son épouse malade. Le chef de la police envoie un inspecteur à son domicile. Et l'inspecteur arrivant là-bas, il s'aperçoit que du coup, c'était pas vrai, l'épouse allait très bien. Et il s'aperçoit aussi par la même occasion que Coacci avait travaillé auparavant à l'usine White contre laquelle a eu lieu l'attaque manquée de Bridgewater. Et en attendant son expulsion, il travaille à l'usine de Slater & Morrill à South Braintree, là où a eu lieu le hold-up. Donc sur ce, l'inspecteur en déduit que les affaires sont liées, que l'anar expulsable est forcément lié à ces deux affaires aussi. Trois jours plus tard, le flic retourne au domicile de l'Italien, seulement celui-ci venait d'être extradé. Il n'y trouve que Mario Boda, qui aura aussi une importance dans l'affaire plus tard. Ce dernier étant un compagnon militant anar de Sacco et connu des services de police pour ses activités militantes, bien évidemment, et éventuellement un trafic illégal de spiritueux. Donc compte tenu de son CV, la police se concentrera essentiellement sur sa voiture, donc la fameuse Buick verte, qui a certainement un rapport avec certaines affaires, mais pas vraiment avec les deux attaques. Alors, de toute façon, ça n'a aucune importance, il est mal né, il est italien, il est anarchiste, bon, voilà. Le véhicule était chez le garagiste, comme d'habitude, parce que manifestement il allait très très souvent chez le garagiste. L'officier de police donc alla rendre une seconde visite à Boda, mais il avait disparu aussi. Il décida alors d'aller voir le garagiste et de lui demander de l'avertir dès que Boda reviendrait chercher sa voiture ou quiconque qui reviendrait chercher cette voiture. Donc le 5 mai 1920, Vanzetti distribua des tracts en compagnie de Sacco. Ils continuèrent la distribution de village en village jusqu'au moment de l'arrestation qui eut lieu donc ce jour-là à 22h. Une demi-heure plus tôt, Sacco et Vanzetti sont devant la maison du garagiste, puisque bon, ils continuaient de leur distribution, donc ils ont fini par atterrir devant la bicoque du garagiste. Et donc ils rencontrent Mario Boda, qui était venu chercher sa voiture donc, avec un de ses camarades. Sur ce, l'épouse du garagiste prévient la police comme prévu. Donc Boda repart aussitôt sans sa voiture, il repart en sidecar avec son camarade. Sacco et Vanzetti repartent eux à pied et puis prennent quelques, je crois que c'est 2-3 kilomètres plus loin, je me rappelle plus, un tramway. Donc on ne sait pas comment ils ont su que Sacco et Vanzetti ont pris un tramway. Toujours est-il qu'un policier les a quand même appréhendés dans le tram et les a conduits directement au commissariat central de Brockton. Donc au moment de l'arrestation, Sacco et Vanzetti ont déclaré qu'ils n'étaient pas armés. Et forcément, lors de leur fouille, ils ont découvert donc sur Vanzetti un revolver et sur Sacco un Colt. Et évidemment, quelques tracts militants. Donc ils ont, et c'est, là on va, au fur et à mesure de l'affaire, on va très vite comprendre pourquoi Sacco et Vanzetti ont menti sur certains trucs, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à se retrouver dans la situation dans laquelle ils étaient. Une petite pause musicale, vite fait. Donc on comprend bien suite à l'arrestation de Sacco et Vanzetti que les armes retrouvées sur eux n'ont aucun rapport avec les deux attaques. Donc après, la machine judiciaire se met en route. L'identification n'est pas faite dans les règles, elles ne le seront jamais d'ailleurs. Sacco et Vanzetti sont présentés seuls aux témoins et non pas au milieu d'autres individus, comme ça se fait à l'accoutumée. Et même comme ça, de toute façon, peu affirment les reconnaître. Alors après, donc ils ont fait des perquisitions, des choses comme ça. Donc évidemment, toute la machine se met en route. Et un autre truc intéressant, c'est que le bureau des enquêtes, qui est généralement sous la direction du ministère de l'Intérieur, est cette fois sous l'autorité du département de la justice. Ce bureau dispose désormais d'une section spéciale chargée d'enquêter sur les anarchistes. Alors elle orchestrera toute une ribambelle d'infiltration, on placera un mouton dans la cellule de Sacco afin de lui soutirer des aveux, mais évidemment ça donnera rien. Un informateur s'introduira dans le comité de défense de Sacco et Vanzetti comme volontaire pour les fonds de collecte, mais à part empocher pas mal d'argent, il ne récupère aucune information. Un autre détective d'État assistera aux réunions des sympathisants, etc., etc., etc. On a même envisagé d'infiltrer le domicile de Rosina Sacco, l'épouse donc de Nicolas Sacco. Donc voilà. Alors évidemment, on comprend bien que les procès sont truqués. En 1922, des agents spéciaux des services officiels de renseignement ont avoué leur participation à l'affaire Sacco et Vanzetti, mais le gouvernement fédéral niera toute implication dans cette affaire, évidemment. On voit quand même apparaître une importante société secrète d'un des services gouvernementaux du renseignement, prête à tout pour atteindre ses propres objectifs bureaucratiques aux dépens d'individus. Il y va du prestige personnel de Palmer que tu citais tout à l'heure, donc qui est à cette époque-ci ministre de la Justice. Le département de la justice se servait donc de Sacco et Vanzetti pour sa propre promotion, vu que Palmer visait la présidence des États-Unis. Et que le gouverneur du Massachusetts, dont dépendait la grâce des accusés, dont on parlera plus tard, lui par contre visait la vice-présidence. Donc déjà tout un petit micmac comme ça se met en place. Il y a des agents du renseignement qui ont quand même confessé que le personnel du département de Boston était convaincu de l'innocence de Sacco et Vanzetti dans l'affaire de Braintree, laquelle relevait manifestement d'un gang très professionnel. En même temps, on comprend bien que ce sont des anarchistes et qu'en général, ils ne font pas de crimes pour de l'argent et qu'ils vont pas buter le quidam non plus, quoi. Donc, voilà, enfin... Cette haine quand même tenace contre les anarchistes s'inscrit en une période où le pouvoir judiciaire tente de se substituer au pouvoir législatif pour casser toute décision mal vue par le patronat. Donc voilà. Alors évidemment, respecter ce principe peut permettre éventuellement de récupérer des votes à l'époque. Alors, donc là on enchaîne sur le procès de Plymouth, enfin avant tout ce qui s'est passé juste avant la comment dire, je perds mes mots. Bref, l'audience préliminaire, voilà, merci. Donc Sacco et Vanzetti reçurent la visite du procureur général Katzman. Il les interrogea séparément, les prévenus débitèrent encore un tissu de mensonges, puisque Sacco prétendit ne pas connaître l'homme au sidecar et Boda, pour leur éviter une inculpation, puisque de toute façon c'était des camarades anarchistes avec qui ils militaient. Voilà. Il n'y a à voir travaillé à South Braintree parce qu'il était clandestin à l'époque. Il assura aussi le procureur qu'il était à son usine le jour du crime de South Braintree. Seulement, il s'était absenté au consulat d'Italie pour obtenir un passeport, vu que Sacco comptait retourner en Italie. Voilà. Vanzetti, lui, nia connaître Sacco depuis plus d'un an et demi, car il voulait garder secret l'épisode mexicaine, puisque Vanzetti s'était barré au Mexique avec beaucoup d'autres camarades, d'ailleurs, anarchistes et pacifistes, parce qu'il ne voulait pas faire de la guerre. Donc il s'était planqué là-bas en attendant, et c'est là qu'il avait rencontré Sacco. Donc voilà. Et il disait aussi, bien sûr, ne rien savoir de Boda, etc., etc. Donc ni l'un ni l'autre ne se doutaient que leur interrogatoire était en relation avec les deux hold-up. Dans leur esprit, il s'agissait purement et simplement d'une nouvelle chasse aux sorcières. Donc c'est pour ça qu'ils ont menti beaucoup au début.
Ils mentent par omission.
Oui, voilà.
Parce que vraiment des vrais mensonges.
Bah oui, c'était un peu... voilà. Donc des trois témoins de Bridgewater, un témoin commence déjà par faire un faux témoignage. Il reconnaît Vanzetti comme étant l'homme au fusil, alors que lors de sa déposition, il dit ne pas avoir pu voir le visage du tireur. À l'audience préliminaire, ce sont les trois témoins qui se changent en accusateurs féroces. Un nouveau témoin même arrive et affirme avoir reconnu Vanzetti. Donc Vanzetti se retrouve inculpé pour attaque avec préméditation de vol et préméditation de meurtre. Voilà. Donc pour lui, c'est fait. Alors donc il sera jugé seul au tribunal de Plymouth. Alors le procès de Vanzetti s'ouvre le 22 juin 1920 avec des dépipés. Évidemment, l'avocat de la défense choisi par les compagnons de Vanzetti allait devenir l'associé du procureur Katzmann après le procès. Et l'interprète italien, son chauffeur personnel. Donc déjà, c'était mal barré. La stratégie de l'accusation se fixa sur les récits des témoins qui avaient reconnu Vanzetti, sur le revolver et les cartouches trouvées sur celui-ci, évidemment. Il y eut des tentatives pour impliquer Boda afin de démontrer que l'accusé était un menteur et donc coupable. La défense, quant à elle, se révélera négligente et décida que l'accusé ne prendra pas la parole pour éviter les contre-interrogatoires, que le contre-interrogatoire ne glisse sur le terrain politique. Elle se contenta d'introduire des témoins qui affirmeront avoir acheté du poisson à Vanzetti, parce que Vanzetti était vendeur de marchand de poissons ambulant. Donc le jour du hold-up, mais le truc c'est que bon déjà c'était pas super crédible et puis ils ont été malmenés par le procureur de toute façon, quoi. Ça c'est sûr. À part le gamin qui a tenu longtemps et puis qui disait avoir aidé Vanzetti à vendre son poisson, mais bon, au bout d'un moment, ils ont fini par retourner la situation à leur avantage. Donc le procès se poursuit aussi avec une cartouche curieusement identifiée comme étant identique à celle trouvée dans la poche de l'accusé. Les objections de la défense sont systématiquement refusées. Le jury se retire pour délibérer, détériore les pièces à conviction au passage. Certains jurés emportent même des plombs en souvenir de l'affaire, parce qu'il y a des gens un petit peu comme ça.
Si jamais ça peut se revendre.
Ouais, voilà. Ça devait coûter cher, remarque le plomb à l'époque. Les jurés donc déclarèrent Vanzetti coupable. Et donc le procès s'achèvera, lui, le 1er juillet 1920. Vanzetti était condamné à 15 ans de travaux forcés pour tentative de vol et il sera incarcéré à la prison de Charleston. Voilà. Alors, il faut bien comprendre que le jugement de Plymouth n'était qu'un tremplin en vue du procès suivant. Hein. C'est le même juge, d'ailleurs, le juge Tailleur, qui présidera le procès suivant à Dedham. Alors, le 11 septembre 1920, Sacco et Vanzetti étaient officiellement inculpés pour le crime de Braintree. L'avocat de la défense a évidemment changé, on comprend pourquoi. Cette fois, c'est un homme qui se consacre beaucoup à la défense du syndicat des Industrial Workers of the World, un syndicat révolutionnaire. Le deuxième procès durera plus d'un an. Il s'ouvre le 21 mai 1921 au milieu d'un vaste dispositif policier. Seule Rosina Sacco est acceptée dans le public, uniquement composée de policiers et de journalistes. La défense demande un jugement séparé et évidemment c'est refusé, donc le procès commence. Les témoins qui n'avaient pas identifié Sacco et Vanzetti lors de l'enquête, comme cette femme qui avait demandé des renseignements aux bandits avant l'attaque, se transforment subitement en accusateurs, évidemment. La femme affirme connaître Sacco en donnant une foule de détails. Face à cela, la défense ne va pas très loin et omet de poser les bonnes questions comme sur l'éventuel accent de l'homme, sachant que Sacco ne parle très mal l'anglais. Néanmoins, sur les trois hommes qui s'étaient trouvés près des victimes, le seul qui avait déclaré identifier Sacco se rétracte devant le tribunal. Donc le témoin en question récalcitrant à l'accusation perdra très vite son emploi. Les témoins de la défense subiront un sort semblable. Et quant aux experts en balistique, ils se contredisent. Et donc seules les vagues conclusions de ceux qui confortent les a priori de l'accusation seront retenues. En juillet, ils sont déclarés coupables. Ce sera la chaise électrique. Les accusés crient leur innocence.
Le jour de Sacco Vanzetti, sur le port de Dieppe. Mais comment cela se fait-il qu'il y eut seulement des guêpes le jour de Sacco Vanzetti, quand les affiches du parti disaient d'aller au port de Dieppe? À quoi quoi cela ressemblait-il qu'il y eut seulement des guêpes le jour de sa convenzetti. N'en voilà-t-il un apprenti qui d'aller sur le port de Dieppe. C'était tout un roman bâti pour n'y rencontrer que des guêpes le jour de sa convenzetti. Qu'est-ce que tu croyais, petit, qu'il allait se passer à Dieppe? Aussitôt venu que parti, pour n'avoir trouvé que des guêpes, le jour de sa convenzetti. Tu étais malheureux, faut-il, pour espérer autant de Dieppe. Comme un changement pressenti, mais c'était compté sans les guêpes le jour de sa convenzetti. Le mal d'aimer qu'on s'en sortit en criant sur le port de Dieppe. Tu le croyais ferme et tu t'y trouvas tout seul avec les guêpes le jour de sa convenzetti. La nuit d'après, tu t'es menti dans ce vulgaire hôtel de Dieppe. Indifférent à la partie qu'avait bien pu jouer les guêpes le jour de sa convenzetti.
Socialiste, compagnon radical, ultra, révolutionnaire, anarchiste, etc., etc.
Donc juste pour finir mon petit exposé, je voulais parler de toutes les demandes de révision, mais juste pour expliquer qu'il y en a eu quand même un certain nombre durant les 7 années qui vont suivre donc le jugement. Les avocats de la défense ont fait motion sur motion pour obtenir une révision du procès. La défense entreprendra même plusieurs enquêtes afin de trouver les véritables coupables. Il fut d'ailleurs établi que Franck Silva et Jimmy Médé avaient pu participer à l'attaque de Bridgewater. Et Celestino Madeiros et le gang des frères Morelli au hold-up de South Braintree. Donc la première année, deux requêtes en révision sont rejetées par le juge Taylor. Donc je vous avais dit que c'était le même juge qui avait déjà présidé les deux autres procès. Et il rejettera aussi les 4 autres qui auront lieu donc en 1922 et 1923. En 1925, Celestino Madeiros s'accuse et déclare Sacco et Vanzetti innocents. L'année suivante, donc une nouvelle requête et une nouvelle fois rejetée. Une nouvelle requête à la Cour suprême cette fois est donc une nouvelle fois rejetée et donc tous les recours légaux sont épuisés. Et après, il y a quand même une danse infernale qui se fait, enfin infernale pour Sacco et Vanzetti. C'est qu'en avril, donc Sacco et Vanzetti rencontrent le juge Taylor qui confirme la sentence pour le 10 juillet. En mai, une pétition signée seulement par Vanzetti présente une demande de grâce au gouverneur. Ce dernier nomme une commission et retarde la date d'exécution d'un mois parce qu'il veut rendre visite aux deux prisonniers. Sacco refuse de le recevoir. Vanzetti parle avec le gouverneur pendant 1h30. Le 3 août, la grâce est refusée. L'exécution est annoncée pour le 10 août. Les deux prisonniers sont préparés, rasés, pantalons fondus, la totale. Enfin, les cheveux rasés et tout. Et 30 minutes avant l'exécution, le gouverneur annonce un délai de 12 jours. Donc voilà, ça a été un petit truc un peu sadique. Et donc, le 23 août 1927, à minuit, Sacco et Vanzetti sont exécutés sur la chaise électrique.
Ouais, donc, une grève de l'EDF.
Oui. Non, c'était des compagnies privées. Et donc, on va parler très rapidement de Sacco Vanzetti quand même, parce que on va les présenter quand même. Donc, Sacco Bartolomeo Vanzetti, lui, va faire une, va profiter, enfin, c'est pas le terme, de son emprisonnement qui va durer donc cette année, pour faire une petite autobiographie de 20 pages hein, qui s'intitule Sans nom dans une dans la foule des sans noms. Donc, en fait, Vanzetti, il est né en 1888 dans un petit village du Piémont, hein, Villa Faletto. Il est doué pour l'étude et d'une intelligence particulièrement éveillée, donc il aurait pu, selon ses professeurs, devenir enseignant ou même savant, mais son père estime que les études sont trop coûteuses. Donc, en fait, il le place comme apprenti pâtissier. Il va aller de place en place, de ville en ville, et il va attraper une maladie, une grave pleurésie. Il va donc être rapatrié en 1907 à Turin, et il va être soigné pendant pas mal de temps, de façon admirable, par sa mère. Malheureusement, ce bonheur va être éphémère, puisque sa mère est atteinte d'un cancer et elle va mourir au bout de 3 mois d'agonie. C'est Vanzetti qui va la soigner avec le même dévouement, d'ailleurs, la même tendresse qu'elle avait eue pour lui, pour le soigner. Et suite à ça, il va s'embarquer pour les États-Unis, au Havre. Il va traverser toute la France à pied et il va donc aller de New York à Plymouth. Il va trimer dur, il va aller d'une ville à l'autre, il va exercer à peu près tous les petits métiers. Donc, par contre, c'était quelqu'un qui était passionné par l'instruction, donc on l'a vu parce qu'il va écrire beaucoup en prison, hein, et il va lire aussi évidemment pas mal. Il lit Darwin, Spencer, Hugo, Zola, Tolstoï, mais il est convaincu très rapidement que seule l'anarchie délivrera l'humanité de ses chaînes. Et donc, il va étudier les œuvres des grands théoriciens, Proudhon, Kropotkin et aussi Malatesta, qui est lui-même italien, donc c'est quelqu'un qui le tient à cœur. Il va être employé à la compagnie de cordage de Plymouth, comme la plupart des immigrés italien d'ailleurs, et il reprend pas son emploi suite à une longue grève salariale en 1916. Donc à cette époque-là, il y a un ami qui repart en Italie, qui lui propose de lui revendre sa charrette à bras et son fonds de commerce de poissons. C'est ainsi qu'il va le devenir donc très connu et très aimé dans le quartier où il travaille. Pommettes saillantes, moustache tombante, l'ami des enfants qu'il appelait Bart, effectuait tous ses jours ses livraisons de poissons en poussant sa baladeuse dans les rues très pauvres, essentiellement peuplées d'immigrés italiens et portugais. Sacco Nicolas, lui, est né en 1891, une famille de 17 enfants hein, à Torre Maggiore. Comme Vanzetti, c'est des années dans son village où, qui sont ses plus belles années, hein, dit-il. Mais il quitte l'école très tôt, à 14 ans, où il doit travailler, et il part avec son frère Sabino aux États-Unis, lui aussi. En 1908, il débarque à Boston en espérant pouvoir vivre une vie décente. Nicolas a 17 ans, mais Sabino, son frère, ne supporte pas l'immigration et il repart. Donc lui, Nicolas reste. Il apprend un métier et devient fabricant de chaussures. Et en 1913, il adhère au groupe anarchiste local, hein, Circolo di Studi Sociali, c'est le cercle d'études sociales, et participe à l'organisation de meetings dans les villes ouvrières, distribue des tracts, des brochures, des souscriptions pour les grévistes, etc. etc. Et en 1916, son groupe organise un meeting à Milford dans le but de recueillir des fonds hein, pour soutenir des grévistes d'une usine dans le Minnesota. Et cette manifestation est interdite par la préfecture de police, et les orateurs sont tous arrêtés, y compris donc Sacco. Et d'ailleurs, ça sera la seule condamnation qu'il ait jamais eue sur son casier judiciaire avant son arrestation, évidemment, quoi. Et donc, cette arrestation, on l'a vu, hein, dans les est évidemment ciblée. C'est aussi un scandale judiciaire en lui-même, hein, et donc elle va provoquer une énorme mobilisation ouvrière internationale. Hein. Aucun continent n'est épargné. Il y a des grèves et des manifestations partout, en Afrique du Sud, en Amérique, en Afrique du Nord, en Océanie, aux États-Unis, malgré la faiblesse du Parti communiste américain et du SJW. Hein, le syndicat officiel, l'AFL, étant complètement inféodé au pouvoir, il y a un mouvement de protestation très important et des grèves mobilisent massivement les travailleurs. En juillet 1927, donc un mois avant leur exécution, New York connaît la plus grande grève de son histoire, jamais vue à New York, hein, avec la participation de centaines de milliers de travailleurs réclamant la vie sauve pour Sacco et Vanzetti. À Boston, à Chicago, sur la côte pacifique, c'est la même chose, hein, il y a des grèves dans toutes les villes industrielles. La tension, la protestation gagne le Canada. Et tout le mouvement de ouvriers américains d'Amérique du Sud se soulève. Alors c'est notamment le cas évidemment en Argentine où il y a un très fort syndicat anarchiste, mais au Paraguay, à l'Uruguay, au Brésil, au Chili, au Mexique, au Venezuela, partout il y a des manifestations par centaines de milliers de personnes, des affrontements avec les forces de répression, et toutes les ambassades des États-Unis sont protégées par l'armée pendant toute cette période parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et même en France, dans les pays, dans tous les pays, mais particulièrement dans les pays où la dictature commence à s'imposer, notamment en Pologne ou en Italie, il y a une protestation ouvrière qui voit le jour. En Allemagne, le nazisme n'est pas encore au pouvoir, le Parti communiste est puissant, là aussi il y a des grandes protestations, mais c'est surtout en Angleterre où là il va y avoir une grève, des grèves impressionnantes malgré le fait que le mouvement ouvrier soit KO debout, puisque l'année qui a précédé, une grande grève générale a avorté. Donc, mais le sentiment de solidarité internationale est si fort que de nombreux syndicats et l'aile gauche du parti du mouvement travailliste se mobilisent. Il y a donc des grèves, des manifestations, particulièrement à Londres, où des dizaines de milliers de travailleurs se rassemblent et se mobilisent. Alors en France, évidemment, là aussi, partout il y a des villes ouvrières, il y a des mobilisations, alors notamment autour de la CGTU. La CGTU, donc en 1921, il y a une scission dans la CGT, une CGT dite révolutionnaire, unitaire, la CGTU, et une CGT réformiste tenue par Jouot. Cette CGT réformiste ne va rien faire pour Sacco-Vanzetti, mais la CGTU, qui a trois grosses composantes, les anarcho-syndicalistes, les syndicalistes révolutionnaires et les communistes, va se mobiliser fortement. Le Parti communiste va être aussi au premier rang de la bataille, puisque l'Humanité va parler tous les jours de l'affaire, et le jour de l'exécution, ils vont faire carrément un numéro uniquement consacré à l'exécution de Sacco-Vanzetti, et évidemment l'Union des anarchistes. Le gouvernement, qui est de gauche à l'époque, radical socialiste, va faire tout ce qu'il peut pour se battre contre les protestataires, hein. faut le dire, hein. c'est pas on le verra aussi, c'est pas la première fois que la gauche se bat contre le mouvement ouvrier, mais bon, voilà. Et au fur et à mesure que le temps va passer, la protestation va prendre de l'ampleur, va se radicaliser, et en juillet et en août, on assiste à des tonnes de grèves et de manifestations dans tout le pays. Donc le jour de l'exécution, le 23 août, donc 1927, c'est 100 000 personnes qui déferlent à Paris. Il y a des heurts particulièrement violents, il y a de nombreux blessés, des arrestations, et il y a même 120 policiers qui sont eux aussi blessés. Il n'y a pas de raison, on peut se faire quand même plaisir de temps en temps. Et donc dans toutes les grandes villes ouvrières, il y a aussi des heurts. C'est un peu la chanson qu'on vient de passer là sur de Marc Aucheret sur Dieppe, hein. Donc des millions d'hommes et de femmes se mobilisent, alors par voie de manifestation, de grève, de pétition. Il y a des hommes de lettres, des écrivains qui évidemment appellent à la clémence, de toutes conditions, de toutes nationalités. On peut dire que le monde entier se lève pour essayer de sauver Sacco-Vanzetti. La police évidemment est partout là présente, elle tire sur les manifestants à Londres, elle tire sur les manifestants à Berlin, elle tire sur les manifestants à Genève, et les patrons sont aussi derrière, puisqu'il licencie des charrettes entières de grévistes et de protestataires. Et la dernière grande manifestation qui va se dérouler sur le mouvement de solidarité de Sacco-Vanzetti, elle suit leur décès, puisque c'est leurs obsèques, hein, où il y a 400 000 personnes qui défilent donc aux États-Unis en portant un brassard: la justice est crucifiée, souvenez-vous, du 23 août 1927. Donc c'est vrai que le juge Teilhard, le procureur Kazman, qui ont tout fait pour assassiner ces deux militants ouvriers, hein. Mais c'est Teilhard qui disait de toute façon que la preuve irréfutable de leur culpabilité, il disait dans une petite phrase lapidaire, leur principe comporte le crime. C'est donc au nom de cette phrase qu'il a assassiné ces deux ouvriers. Alors bon, pour finir, bon, je dirais aussi que, donc je le disais, que l'Humanité, le Parti communiste avait pris une partie, entre autres, une grosse partie de la solidarité en France, hein. Et donc je vais vous citer ce qu'écrivait donc le 23 août 1927 Paul Voyant Couturier, qui est un des grands intellectuels de ce parti communiste naissant, puisqu'il est né lui aussi en 1921. Et donc à l'occasion du numéro spécial de l'Humanité sur l'assassinat de Sacco-Vanzetti, Paul Voyant Couturier écrit: le prolétariat avait toujours tout fait pour les sauver, jour de deuil et de colère, hurrah pour le dollar, triomphe de la science et de l'hygiène, du fordisme et de la Bible. La justice de classe vient de tuer Sacco et Vanzetti, brûlé vif sur la chaise électrique. C'est en effet le dernier mot de la civilisation capitaliste. L'Amérique bourgeoise, l'Amérique des trusts, du Ku Klux Klan, de l'automobile pour tous, des lynchages et de l'American Legion est là tout entière. Et c'est contre elle, avec l'autre Amérique, celle des millions de travailleurs courbés dans l'usine, au bureau, sur la terre ou dans la mine, que nous nous dressons. L'assassinat de ce matin peut apparaître comme une regrettable erreur judiciaire. Ce n'est pas une erreur judiciaire, c'est un exemple. Pour le prolétariat, c'est ouvertement une déclaration de guerre. Donc on peut voir évidemment que ça a vraiment remué beaucoup de monde. Je dirais quand même en bémol par rapport à l'action du Parti communiste, c'est qu'il faut le dire, et c'est reconnu maintenant, et le Parti communiste lui-même le dit, c'est que les fonds de soutien, des comités de soutien à Sacco-Vanzetti, les fonds envoyés aux États-Unis, qui étaient très importants, puisque ça venait de partout dans le monde, ont été en partie détournés par le Parti communiste pour soutenir sa presse, le Parti communiste américain. Donc il y a eu un véritable engagement, mais aussi il y a eu des choses pas très belles. Hein, et je donnerai aussi...